Les podcasts du Collège de France, littérature.
Confus d'être en retard, j'ai dans mon bureau là-haut une sorte de réveil comme ça qui retardait de 10 minutes, je ne m'en apercevais pas. Brusquement, en comparant avec ma montre, c'était l'affolement. Bon, je présente à tous mes voeux, nous nous retrouvons, puisque cette année j'ai commencé avec un zèle inhabituel. Et nous reprenons au seuil de cette année nouvelle notre examen des Novas et d'autres jolies choses, des lettres Marie de France, etc. Alors, vous vous en souvenez, dans la précédente séance, donc avant Noël, j'avais rapidement présenté une première présentation des Novas Occitanes. J'avais montré leur enracinement dans la poésie des troubadours et je l'avais fait à partir d'un commentaire du mot « nouvelle », de ses équivalents dans d'autres langues au Moyen-Âge. Et ce commentaire, je l'avais fondé sur une lecture d'un texte extrêmement connu, le début du « Chevalier au lion » de Chrétien de Troyes. Et pour en finir provisoirement avec les Novas, pour achever leur présentation liminaire, j'étais revenu un instant sur ce début du Chevalier au Lion et sur les occupations des chevaliers pendant la sieste scandaleuse d'Arthur et de Guenièvre. Et j'avais rappelé ces vers, liens racontait une nouvelle, l'autre parlait d'amour, des angoisses et des dolours et des grands biens qu'en ont souvent les disciples de son couvent. Et je vous avais dit que les Novas réunissent les deux activités. Elles se situent au point où ces deux activités ne font qu'une. Ce sont des nouvelles d'amour et ce sont des nouvelles de l'amour. Elles méditent et elle glose sur l'amour et sur la condition de l'amoureux à partir de situations particulières, à partir de cas, et en ce sens, ce sont des textes casuistiques, et aussi à partir de poèmes, autrement dit, à partir d'un corpus passé de l'amour, des aventures passées de l'amour, des émotions passées de l'amour, des poèmes passés de l'amour, qui se prêtent à l'extrapolation et aux commentaires. Mais, et j'avais terminé sur ce développement, le refus de distinguer l'anecdote de la casuistique nous dit encore autre chose, nous dit que ce qui est nouveau, ce n'est pas seulement une histoire inédite, la nouvelle, mais aussi la méditation toujours fraîche et renouvelée, nouvelle au sens médiéval du terme, de la poésie suscité par l'amour. En lisant l'an dernier les Razos, nous étions parvenus à la conclusion, c'était même la conclusion générale du cours qui était assez simple, que le récit valent commentaires des poèmes à partir desquels ils sont inventés, qu'ils impliquent, qu'ils désignent sous cette forme latente ce que nous dirions aujourd'hui dans un commentaire abstrait sous la forme de l'explication de texte ou de l'analyse critique. Et plus encore, j'avais suggéré que ces récits ont leur poétique propre qui prolonge celle des poèmes et qui la complète. Eh bien, les Novas nous fournissent cette année une confirmation de ces analyses, elles qui se disent et qui se jugent nouvelles en ce qu'elles glosent les chansons, les poursuivent, les laissent résonner dans le nouveau contexte qu'elles leur donnent, le contexte d'aventures appropriées, les cite, les enchâsse dans ce contexte, en imprègne, les comprenne et les donne à comprendre, bref, en ce qu'elles vibrent à la poésie et la reçoivent dans sa fraîcheur et lui restituent à tout instant sa fraîcheur en la revivant dans des situations nouvelles, indifféremment sous la forme du récit, de l'enseignement ou plus souvent encore du mélange de l'un et de l'autre. Et tout cela, alors j'en étais là, mais tout cela, Raymond Vidal de Bessalou, qui, vous en souvenez peut-être, est l'auteur d'au moins deux novas et peut-être de trois. C'est-à-dire, à lui seul, il est l'auteur d'un bon tiers ou presque de la moitié des novas que nous connaissons. Eh bien, tout cela, Raymond Vidal de Bessalou le donne à entendre, non pas dans ses novas, mais dans un autre de ses ouvrages, les Razos de Trobar, qui sont le plus ancien traité de poétique en langue vulgaire romane. Et vous voyez l'usage aussi toujours de ce mot raso, la raison, rendre raison des poèmes dans les Razos, rendre raison de la composition poétique, de la création poétique dans les Razos de Trobar. Et il le donne à entendre en attachant au Trobar une importance extrême, en y voyant l'objet de l'attention universelle et le reflet ou la mémoire de tout ce qui existe au monde. Il y avait dans le New York Times d'hier un article, une sorte d'article de libre opinion sur le rôle des humanités et à quoi servent les humanités. Et l'auteur, qui est un professeur de droit, concluait que ça ne sert à rien, que c'est inutile de prétendre que ça sert à quoi que ce soit. Alors il prenait servir dans un sens social, si je puis dire, servir à la société, mais que c'était très bien quand même. Eh bien, Raymond Vidal de Bessalou n'est qu'à moitié de cet avis. Et je vous lis le passage dans les deux langues parce que c'est vraiment un beau texte finalement, et un texte important. Totas gens, Christianas, Giusevas et Sarrazinas, Emperador, Princeps, Rei, Duc, Comte, Vescomte, Valvasor, Clergue, Borges, Villans, Pox et Grans. Meton tot jorts, lor entendimen en trobar e enchantar. Aucun volon trobar, aucun volon entendre, aucun volon dire, aucun volon ausir. Et tot li mal el ben del mon, son mes en remembrance per trobadors. Et ja non trobares mot ni mal dic, pois trobares la mes en rima, que tot jorns non sia en remembranza, car trobar se chantars, son movements de totas gaillardias. Tous, chrétiens, juifs et sarrasins, empereurs, princes, rois, ducs, comtes, vicomtes, vavasseurs, clercs, bourgeois, vilains, petits et grands, ont sans cesse l'esprit tourné vers la composition poétique, vers le trobar et vers le chant, qu'ils veuillent composer ou qu'ils veuillent comprendre ce qui a été composé, ou qu'ils veuillent dire ou qu'ils veuillent écouter. Et tout ce qu'il y a au monde de mal et de bien est mis en mémoire par les troubadours. Et vous ne trouverez pas une parole ni un propos satirique, dès lors qu'un troubadour l'a mise en rime, qui ne soit désormais toujours en mémoire, car composer de la poésie et chanter sont la source de tout élan d'audace joyeuse. Je développe un peu ce mot gaillardia, est difficile à traduire, mais très riche. Si le monde entier est suspendu aux lèvres des troubadours. Si tout ce qu'il y a au monde de mal et de bien est mis en mémoire par les troubadours, si la composition et le chant poétique sont à la source de l'élan vital même et de son énergie joyeuse, gaillardie, alors toute écriture poétique, qu'elle raconte ou qu'elle médite, est un prolongement du lyrisme. Et il n'y a pas d'activité plus importante au monde après le trobar lui-même, que de lui donner des prolongements poétiques sous la forme de récits, de méditations ou de moralisations, des prolongements poétiques qui le gardent dans sa perpétuelle nouveauté. Ce qu'implique en fait ce texte, c'est ce que je disais précédemment. Mais à vrai dire, ce passage qui ne manque, vous voyez, ni de panache, ni d'allure, ni même de profondeur, ce passage est peut-être un peu moins limpide qu'il n'y paraît. Parce que la question est de savoir si Trobar désigne spécifiquement ici la composition de chansons, au sens large, pas le sens restant de la canso, le sens de poème chanté, ce qu'implique la traduction que je proposais, ou bien si le mot trobar s'applique plus généralement à toute composition poétique ou littéraire, à l'écriture littéraire au sens large. Dans le premier cas, le commentaire que je viens de proposer est pertinent, sans nulle vanité. Dans le second cas, le développement est trop général pour être vraiment significatif. Il souligne simplement les pouvoirs de la littérature, mais il ne permet pas d'articuler les novas ou les rasos sur les chansons. Or, l'emploi dans le texte que je viens de citer, l'emploi de dire et de dit, chaque fois à une reprise, cet emploi oriente, semble-t-il, vers la seconde interprétation, dans un sens général, s'il est vrai que dire s'oppose à chanter et si le dit s'oppose au chant. Dans ce cas-là, le trobar inclut l'un et l'autre, et le trobar, c'est tout. Mais cette opposition n'est pas certaine. Et si vous me permettez de faire comme j'aurai d'ailleurs bientôt l'occasion de le faire à nouveau, de me lancer dans un examen un petit peu précis du texte, ce qui n'est peut-être pas très amusant, mais ce qui est nécessaire avec ces vieux textes. L'incertitude est accrue du fait que, précisément, à proximité de dire et de dit, ditch, le texte n'est pas sûr. Totas gens, meton ta jones lor entendimen, en trobar et en chantar, aucun volon trobar, aucun volon entendre, aucun volon dire, et, voyez, aucun volon ausir, mais le dernier o, ou, est absent du manuscrit. Il est restitué, ce qu'implique, quand on l'a sous les yeux, les crochets droits entre lesquels il est mis. Il est restitué, mais il est nécessaire. Les quatre o, ou, sont syntaxiquement sur le même plan, mais les oppositions se regroupent par paires. Trobar, entendre, entendre au sens de comprendre, dire, à osir, entendre au sens de ouïr. Or, dans ce contexte, dire reprend soit l'ensemble trobar et chantar, soit même chantar seul, si l'on considère que le couple est ensuite dissocié. Trobar, qui est immédiatement repris, s'oppose à entendre, et dire se substituant à chantar pour s'opposer à ausir. Dans quoi qu'on fasse, dans cette construction symétrique, ou bien, en aucun cas une opposition dire chantar n'offre ici de sens. Nous sommes dans le contexte exclusif du lyrisme. Il y a l'ensemble trobar chantar, et puis on entend, on comprend, etc. On dit, on entend. Tout ça, c'est la même chose. S'agissant de dit, la situation est un peu plus compliquée. Eja non trobares mot, ben, mais vous voyez, entre parenthèses, c'est-à-dire que quand on édite le texte, on considère qu'il faut le supprimer. Jamais vous ne trouverez de mot, et puis dans le manuscrit, il y a bien à la suite. Ni mal dit, dès lors qu'un troubadour l'a mis en rime, qui toujours ne soit en remembrance, mot à mot. Alors, c'est un passage où le copiste était distrait. Voilà, parce que, on le voit parce qu'il a oublié le S de pois, et peut-être aussi un « que » à la suite, « pois que trobar », ça me semble, mais ce n'est pas indispensable, et il a oublié, en tout cas, « non sia », qu'il ne soit en remembrance, qu'il est absolument nécessaire de restituer, sinon le texte n'a pas de sens. Que « tojort » en remembrance, il manque le verbe, c'est clair. Bon. Donc il était distrait à ce moment-là. Mais c'est probablement aussi par distraction qu'il a introduit après le mot « mot », l'adverbe « ben », bien, qu'il faut sans doute supprimer. Pourquoi l'a-t-il introduit ? Parce que l'expression « mal dit », qui vient ensuite, a entraîné dans son esprit la symétrie bien dit, bien ni mal dit. Puisqu'il envisage dans ce passage toutes les possibilités, ou qu'on entend, ou qu'on compose, ou qu'on entende, ou qu'on dise, etc., eh bien qu'un mot soit bien ou mal dit, mais ce n'est pas cela que le texte dit. Et il introduit aussi, parce que pour lui, bien ni mal dit correspond à l'expression « tout le mal et le bien du monde ». Tout cela fonctionne en symétrie. Il vient de copier « tout le mal et le bien du monde ». Mais si on garde bien, la phrase est boiteuse, que faire de mots? Et jamais vous ne trouverez mots bien ni mal dit. Alors évidemment, un mot peut être bien ou mal dit, mais le sens n'est pas satisfaisant parce qu'il s'agit des qualités du trobar. Et un mot mal dit, dans ce sens-là, n'a pas besoin d'être toujours mis en remembrance. La phrase est boiteuse. Et il faut certainement comprendre « mal dit » comme une formule toute faite, et presque comme un mot, comme un seul mot, n'est-ce pas, désignant les chansons satiriques ou les chansons d'imprécation, les chansons qui disent du mal, qui maldisent, qui maudissent, n'est-ce pas ? Les chansons que en occitan on appelle sirventes, mais que les poètes galiciens appellent précisément chansons d'escarnio et maldecir, les chansons de moquerie et de maldire, pas au sens où elles sont mal composées et mauvaises, mais au sens où on dit du mal de, chansons de maudire. Et en ce cas, non seulement dit ne s'oppose pas à chant, n'est-ce pas, mais mal dit désigne un genre lyrique particulier. Voilà. En gros, encore une fois, le sirventes. Mais le désigne sous une appellation ibérique. Voilà. Et n'oublions pas que Ramon Vidal de Bessalú est catalan et que c'est précisément parce qu'il est étranger, c'est-à-dire qu'il éprouve le besoin d'écrire un art poétique occitan. C'est parce qu'il a ce regard extérieur, légèrement extérieur, sur le monde poétique occitan qu'il se donne la peine d'écrire un traité de poétique. Et ainsi, alors je suis désolé d'avoir été à la fois long et forcément confus oralement sur un point aussi minuscule, mais vous voyez que malgré l'emploi de dire et de ditch, Raymond Vidal n'inclut certainement pas dans son propos les novas ni les autres textes narratifs. Il n'a à l'esprit que la poésie chantée des troubadours à laquelle aussi bien il consacre seul son traité. Il l'a seul à l'esprit comme l'implique au demeurant le couple trobar et chantar qui revient deux fois dans ce court passage. Et à mon avis, l'association si fréquente des deux mots, trobar et chantar, n'est pas un doublet dépourvu de signification. Trobar et chantar ne sont pas interchangeables, ne sont pas synonymes, mais les deux termes ne sont pas non plus en opposition. Et si l'on peut dire, c'est du moins ce que je suggère, il faudrait essayer de le vérifier, ce que je n'ai pas fait, mais ce que je soupçonne, c'est que trobar est plus général et que chantar est un cas particulier du trobar, mais uniquement dans un sens bien précis. Chantar désigne l'élan, l'énergie créatrice, l'enthousiasme typiquement lié, comme nous le savons, au renouveau printanier et à l'amour, qui est ou qui sont comme le moteur du trobar. Et en ce sens, la mélodie va avec le chantar, parce que la mélodie, le chant au sens propre, est l'expression la plus claire de cet enthousiasme, parce que la mélodie répond au chant des oiseaux qui marque le printemps et l'amour printanier, mais Donc la mélodie va avec le chantar, mais la mélodie n'est pas un élément discriminant, opposant le chantar au trobar. Vous voyez, le trobar inclut le chantar, est mu par le chantar, comme auraient dit les troubadours, mais ne s'oppose pas à lui. Et si tel est le cas, et si c'est bien ainsi que Raymond Vidal l'entend, il prête spécifiquement à la poésie des troubadours, aux chansons des troubadours, à cette poésie chantée des troubadours que nous désignons aujourd'hui sous le nom de poésie lyrique, il lui prête une importance immense, prodigieuse, mystérieuse aussi, puisqu'elle est, et elle tout particulièrement, la mémoire du monde, puisqu'elle a en charge la poésie, cette poésie chantée, cette poésie des troubadours, elle a en charge la mémoire du monde, puisqu'elle seule est la mémoire du monde, puisque la mémoire du monde repose sur elle et sur elle seule, et tout ce qu'il y a au monde de mal et de bien est mise en mémoire par les troubadours. Et vous ne trouverez pas une parole ni un propos satirique, donc si on supprime Ben et si on comprend Mott ni Malditch, pas une parole ni un propos satirique, dès lors qu'un troubadour l'a mise en rime, qui ne soit désormais toujours en mémoire, car trobar et chantar sont la source de tout élan d'audace joyeuse. Ces quelques lignes sont peut-être ce qu'on trouverait au Moyen-Âge de plus proche d'un sacre du poète, pour reprendre le titre de Bénichou. Et j'exagère à peine en disant qu'elles sont, à ma connaissance, l'indice le plus parlant que la poésie a pu se voir reconnaître au Moyen-Âge une valeur absolue. Et que, au Moyen-Âge, quand on parlait de poésie, même sans employer le mot, généralement sans employer le mot, ou quand on avait en tête une notion correspondante à ce qu'est pour nous la notion de poésie, eh bien, on pensait à quelque chose d'aussi exigeant et d'aussi fort que ce à quoi nous pensons. On peut constamment en douter lorsque nous traquons l'essence de poésie ou ce qu'il y a sous la notion de poésie au Moyen-Âge. Nous sommes constamment ramenés à des traités, à des espèces de livres de recettes. Si vous voulez faire une pastourelle, vous faites comme ceci, comme cela, et puis des considérations sur la versification, et puis c'est tout. Et nous pouvons douter qu'il y ait autre chose derrière. Mais ces quelques lignes, ce prologue, au Razos de Trobar, encore une fois au premier traité médiéval de poétique en langue vulgaire, ne laisse absolument aucun doute. Si tel est le regard que Raymond Vidal de Bessalou, théoricien de la poésie, pose sur la poésie, on comprend mieux comment Raymond Vidal de Bessalou, sous sa casquette, si je puis dire, d'auteur de novas, situe ces novas au regard de la poésie. Les novas ne donnent pas directement des nouvelles du monde. Elle ne raconte pas directement le monde, elle ne médite pas directement sur lui, elle raconte et glose cette mémoire du monde qui est condensée, qui est recelée, qui est tout entière dans la poésie. Et c'est pour cela que les novas qui racontent des histoires, qui en principe devraient raconter des histoires, ne cessent de citer les poètes, de commenter les poètes et ne peuvent pas ébaucher une anecdote sans la justifier, sans la commenter à partir de citations des troubadours. Les novas, récits et débats en vers fondés sur les chansons des troubadours, révèlent bien ainsi que pour leurs auteurs, la poésie ne relève pas du récit à sa source, mais se prête à des prolongements dans l'ordre du récit. Ils ne disent pas, eux, comme la Razo, « Il s'est passé telle chose, et alors le troubadour a écrit la chanson qui dit que... » Mais ils disent, « Il y a, la chanson est un donné. » Et à partir de ce donné, eh bien, toute la vie du monde, tout ce qu'on peut éprouver, tout ce qu'on peut vivre dans le monde, toutes les aventures qui peuvent vous arriver prennent leur sens et doivent être vécues et méditées à partir de ce premier donné qu'est la chanson, qu'est la poésie. Et à l'origine la poésie, à l'origine de ce donné, bien une origine lui aussi, à l'origine de la poésie, il y a le chant, enthousiasme se manifestant au printemps par des variations mélodiques de la voix, chez le troubadour comme chez l'oiseau, c'est une sorte de définition du chant au sens médiéval qu'on pourrait proposer, et tout le reste en est, d'une façon ou d'une autre, le développement. Il y a d'abord ce chant, et puis ce chant se monnaie dans le développement du poème et de la canzone, et le poème lui-même se monnaie ou se prolonge en inspirant ces récits et ces aventures qui ne se modèlent, ces nouvelles qui ne se modèlent et qui ne prennent sens que grâce à lui. Alors cela, avec tout, encore une fois, je me suis embarqué dans ce commentaire trop pointilliste du texte de Raymond Vidal de Bessalou, je crains que ça ait été absolument incompréhensible, et c'était en tout cas fort ennuyeux, et je me suis laissé embarquer là-dedans, mais enfin, c'était cette présentation liminaire de Nouvelles et Novas. Et j'avais annoncé, mais j'ose à peine le dire parce que je traîne trop sur tout cela, j'avais annoncé un autre développement liminaire qui était sur la poésie entre brevitas et amplificatio, entre l'abrégement et l'amplification, mais si on traduit, on gauchit déjà le sens des termes dans le sens rhétorique des termes. Ce développement, ça fait encore, je vais encore vous parler de quelque chose d'ennuyeux et vite au fait, mais ce développement, d'une certaine façon, je ne peux pas l'éviter. Parce que nous parlons de poèmes narratifs greffés sur des poèmes lyriques. Le poème narratif greffé sur un poème lyrique développe nécessairement le poème lyrique. Le salut d'amour exploite systématiquement les arguments ébauchés par la canso pour toucher le cœur de la dame. À l'inverse, le poème lyrique est à plus forte raison, la nova ou le lai qui partent d'une situation amoureuse célébrée par ou évoquée par un poème lyrique, la développe. À l'inverse, le poème lyrique qui se veut l'écho d'un récit, qui se veut la mémoire d'un événement, s'y réfère brièvement ou de façon allusive. Nécessairement. Or, l'un et l'autre ne le font pas spontanément ni inconsciemment au Moyen-Âge. Ils ne peuvent pas le faire spontanément ni inconsciemment parce que les termes et les notions de brevitas et d'amplificatio sont très présents dans la réflexion médiévale sur l'art littéraire et trop présents pour être jamais oubliés même par des auteurs qui ne sont pas de grands intellectuels. Le Moyen-Âge, on le sait, est extrêmement attentif aux enseignements de la rhétorique latine classique. Il les étudie sans cesse et il les reproduit à sa manière dans ses propres arts d'écrire, dans ses artes dicandi, ses arts poétiques, dans ses artes praedicandi, ses arts oratoires dirigés vers le seul art oratoire qui existe encore au Moyen-Âge, l'éloquence sacrée, ses artes dictaminis, les arts epistolaires, les arts de composer des lettres. Et donc, tous ces artès sont composés à partir d'une lecture et d'une réflexion sur les traités de rhétorique antique. Et à travers ces traités, le Moyen-Âge connaît l'importance de la brevitas comme de l'amplificatio dans la composition littéraire, parce que ce sont des termes et des notions sur lesquels ces traités antiques insistent beaucoup. Mais il ne leur donne pas le même sens que l'a fait l'Antiquité. Il y a tout un chapitre dans le livre de Curtius sur la littérature européenne et le Moyen-Âge latin. Tout le chapitre 13 est consacré à la concision idéale de style. Et Curtius note que tous les auteurs médiévaux font l'éloge de la brevitas, mais qu'ils paraissent avoir oublié son rôle et sa raison d'être dans la rhétorique antique. Ils font tous l'éloge de la concision, mais ils ne savent plus pourquoi. Il faut être concis. Dans la rhétorique antique est essentiellement la rhétorique de l'orateur dans un art oratoire, soit politique, soit judiciaire. Et donc, c'est la rhétorique est l'art de convaincre, d'abord. Bon. Et la brevitas antique appartient d'abord à l'art de l'orateur et singulièrement à l'art de l'avocat. La brevitas doit caractériser la narratio. Alors ça, le Moyen-Âge l'a bien retenu. Ils sont de bons élèves. Ce sont à la fois de bons élèves ou des élèves appliqués, mais des élèves médiocres. Ils retiennent très bien, mais ils ne comprennent pas toujours. Alors, ils ont retenu que la brevitas doit caractériser la narratio. Donc, il faut raconter serré. Ils ne le font pas, d'ailleurs. Enfin bon, il faut écrire brièvement. Mais dans la rhétorique, dans ces traités antiques, la brevitas doit caractériser la narratio au sens où l'entend l'éloquence judiciaire. Dans l'éloquence judiciaire antique, la narratio, c'est, dans le développement du discours de l'avocat, le récit des faits relatifs à la cause plaidée. Le récit des faits relatifs à la cause plaidée. Reprenons les faits, mon client sort tranquillement de chez lui, et voilà que ce bandit ou ma cliente lui arrache son sac à main. Donc, il faut raconter avec précision, mais il faut être bref. Dans la civilisation médiévale, comme on sait, l'éloquence politique occupe une place mineure et l'éloquence judiciaire une place quasi nulle. Et la seule éloquence réellement pratiquée est celle de la chair, qui obéit à des lois bien différentes. Et il y a un peu la trace de cela. Mettons, un sermon du temps commente l'évangile du jour. L'évangile a été chanté en latin, donc il y a une paraphrase qu'on s'efforce d'abréger un peu de l'évangile du jour. C'est tout ce qu'on trouverait. Mais enfin, c'est une trace trop ténue pour avoir marqué seule. Et du coup, pour le Moyen-Âge, la narratio, c'est n'importe quel récit. Tout récit se doit d'être bref, rien de pire que d'ennuyer, et c'est quelque chose que je devrais bien me dire, particulièrement aujourd'hui. Alors, cette vue n'est pas entièrement étrangère à l'Antiquité. On trouve chez des auteurs antiques, par exemple chez Pline le Jeune, des développements qui cherchent à justifier les longueurs d'Homère et de Virgile. Ils disent, oui, il ne faut pas ennuyer, il faut être bref, mais enfin, Homère et Virgile, quelquefois, sont un peu longs. Bravo, Homère, sommeille quelquefois, comme dit l'autre, etc. Bon. Et alors Pline, qui veut sauver quand même ces grands auteurs, dit en substance, ce qui touche au sujet n'est jamais trop long, et ce qui s'en éloigne n'est jamais trop court, n'est-ce pas ? La brevitas n'est requise que dans ce qui éloigne du but ou du sujet. Enfin, foin des digressions, là aussi je peux en prendre de la graine, n'est-ce pas ? Mais enfin, c'est ce que dit Pline. Donc, le Moyen-Âge recherche un peu mécaniquement la brevitas et en fait systématiquement l'éloge. Mais il connaît aussi le procédé inverse qui était aussi enseigné. Et les artes dicandi enseignent les arts poétiques, enseignent à la fois les arts poétiques latins. Là, ok, c'est une parenthèse. Les arts poétiques latins, Geoffroy de Vinsauf, Mathieu de Vendôme, etc., s'inspirent directement de la rhétorique antique. Et les arts poétiques en langue vulgaire sont plutôt, comme les Rasons et Trobards de Raymond Vidal de Bessalou, sont plutôt des recueils de recettes pour composer tel ou tel type lyrique. Si tu veux faire une canso, si tu veux faire un Cervantes, si tu veux faire une pastourette, si tu veux faire une chanson d'aube, etc. Bon. Au point qu'on dit, oui, pour faire une pastourelle, alors c'est, on rencontre une bergère qui garde des moutons, etc. Et sur le même modèle, tu peux faire une vachère, une porchère, etc. C'est comme si le type poétique changeait selon les bêtes gardées par la jeune personne que le poète essaye soit de séduire, soit de violer. Je ferme la parenthèse puisque la brevitas est requise dans les digressions. Donc, les artes dicandi enseignent la brevitas, mais ils enseignent l'abréviatio, comme ils disent, mais ils enseignent aussi la dilatatio et l'amplificatio. Bon. Et, en un sens, l'association et l'opposition des deux procédés inverses remontent à Quintilien. Donc, ils s'inspirent de Quintilien, ils ne peuvent pas avoir de meilleur maître, ou en tout cas de plus abondant. Mais ce que. On trouve ça chez Quintilien 8.4.1, si ça vous intéresse. Mais ce que Quintilien nomme amplificatio, ce n'est pas l'allongement, c'est l'insistance. C'est l'insistance qui permet, par divers procédés de style, de donner de l'importance à ce qui sert l'argumentation ou ce qui sert l'effet recherché. Et minuere désigne à l'inverse une atténuation qui peut revêtir d'autres formes que celles de l'abrégement. Ça peut être l'euphémisme, ça peut être la prétérition. C'est l'avocat de la défense, toujours dans le même incident, mon client avait pris ses précautions avant de sortir de chez lui, ce qui veut dire qu'il avait sur lui un revolver ou un couteau. Mais on ne dit pas comme ça. Bon, ça relève de la diminution, même si c'est aussi long à dire. Et Quintilien donne même des exemples où l'amplificatio se fonde sur la brièveté. Ça, on voit pas du tout. Exemple, on donne un. Cite Quintilien, c'est du latin. Enfin, ce n'est pas que Quintilien soit toujours facile, mais là, c'est du facile. Alors, il cite l'avocat. Matrem tuam cecidisti, quid dicam amplius. Matrem tuam cecidisti. Et commande Quintilien, nam et hoc augendi genus est, tantum aliquid efficere ut tot possit augeri. Bon, traduit. Tu as tué ta mère. Que dire de plus? Tu as tué ta mère. C'est aussi, en fait, commande Quintilien, une façon d'amplifier, rendre quelque chose si grand qu'il ne puisse pas être amplifié, augmenté. C'est quelque chose de si monstrueux de tuer sa mère qu'il suffit de le dire. On ne peut rien dire de plus. Que dirais-je de plus? Il n'y a rien de plus à dire. Bon. Et ces formules signifient, on trouve déjà ça chez Gorgias, chez Isocrate, chez Aristote, que l'orateur doit être capable de présenter les grandes choses en petit et les petites choses en grand. Mais ce n'est pas uniquement une question de longueur. Et Curtius, dans le chapitre auquel je faisais allusion, cherche par quel cheminement Saint Jérôme, Cassiodore, etc., on est passé à l'idée que l'amplificatio est l'allongement et s'oppose à la brevitas. Bah, pour ma part, dans ma naïveté ignorante, je rapprocherais volontiers cette évolution du fait que la langue vulgaire romane, sous toutes ses formes, enfin, dans toutes les langues romanes, est syntaxiquement une langue de la coordination, de l'enchaînement narratif, et non de la subordination rhétorique. C'est un de mes bateaux, j'ai certainement déjà eu l'occasion de le dire ici. La syntaxe latine, la syntaxe du latin classique, est une syntaxe de la subordination et de la hiérarchie des propositions à l'intérieur de la période. Une période qui commence, qui imbrique ses subordonnées et qui retombe sur ses pieds à la fin, close sur elle-même. Et alors que la syntaxe de la langue vulgaire romane est une syntaxe de la coordination. Il y a bien des subordonnées, mais pas imbriquées les unes dans les autres. C'est une syntaxe du récit. Le récit se poursuit avec des « et » ou des « si » au sens de « et » perpétuels. Et c'est tellement vrai que dans les, si vous regardez une édition de texte, d'un texte en ancien français, la ponctuation, une édition moderne, la ponctuation est naturellement introduite par l'éditeur moderne, puisque les manuscrits ne sont pas ponctués ou ont un système de ponctuation tout à fait différent du nôtre, eh bien, vous verrez que très souvent, l'éditeur moderne abuse du point-virgule, utilise beaucoup plus de points-virgules et de deux points qu'on en utilise lorsqu'on écrit aujourd'hui. Il le fait pour une bonne raison, c'est qu'il ne sait pas très bien quand la phrase s'arrête. D'un côté, ça s'arrête. D'un autre côté, l'enchaînement est net avec ce qui continue. N'est-ce pas ? Et il n'ose pas mettre un point. N'est-ce pas ? Il y a une sorte de rebond perpétuel. N'est-ce pas ? Tandis que en latin, on met sa virgule avant chaque proposition, comme en allemand, toc toc, et puis on sait très bien quand la phrase s'arrête et quand elle repart, enfin au moins en latin classique. Et il me paraît en un sens naturel que des auteurs dont une langue romane était la langue maternelle aient conçu d'abord le style en termes d'allongement et d'abrégement. Savoir quand on arrête de dire ou quand on continue à dire et alors que pour les latins, la phrase produisait des effets qui ne tenaient pas à sa longueur. Alors, vous me direz, c'est très joli ou c'est très ennuyé, mais enfin, nous sommes loin de notre sujet. Et la poésie comme récit dans tout cela, où est-elle ? Je voudrais bien le savoir. Eh bien, je cite une dernière fois Curtius, qui clôt son chapitre en suggérant qu'on était au Moyen-Âge lassé des longueurs de l'épopée. Et il écrit, dès la fin du XIIe siècle, alors, il a cité un abrégement facétieux d'un auteur latin du XIIIe siècle, et il dit « Dès la fin du XIIe siècle, on observe également dans les chansons de gestes une tendance à abréger les obligatoires massacres humains. » Alors, l'expression « les obligatoires massacres humains » dans quelque chose d'un peu bizarre qu'il faut mettre au compte de la traduction. Mais enfin, il me semble que c'est pour un si grand savant une remarque bien cavalière. Je ne sais pas ce qu'il en est spécifiquement des massacres humains, comme il dit. Il est sûr que les massacres de poulets produisent moins d'effets sur les âmes tendres, mais d'une façon générale, c'est le contraire qui est vrai. Les chansons de gestes ne cessent de s'allonger et dans des proportions considérables. Vous vous rappelez qu'il y a deux ans, nous avions commenté le passage d'abord de la Belle Aude dans les différentes versions de la chanson de Roland, et ça passait de 15 vers dans le manuscrit d'Oxford, dans, je ne sais plus, 1500 vers, 2000 vers, enfin, dans ces proportions-là, dans V7 et Châteauroux. Voilà. Les romans en prose et les chansons de gestes deviennent au XIIIe siècle de plus en plus longs. La narration va vers l'amplification au sens médiéval du terme. Et la prose des romans, à partir du moment où apparaît l'écriture en prose, la prose des romans et sa tendance à la saturation fait le reste. Les romans en prose sont de plus en plus longs, toujours sous le principe de la coordination, parce qu'on ajoute des aventures et que cette fois, au niveau des cellules narratives, c'est toujours le principe du « et », il lui arrive toujours de nouvelles choses aux héros. Et puis les romans en prose sont de plus en plus longs parce qu'ils ils ignorent les ellipses du récit. Et le roman en prose s'écrit sur le Nil, et un chevalier arriva sur son cheval, et il descendit de son cheval, et il mit pied à terre, et il dit « Roi Arthur, dit-il, je te salue, etc. » Et bon, on ne nous épargne rien. Et s'agissant des chansons de gestes, qui, pour leur part, restent en vers, Jean Richenet a montré que leur évolution va vers l'allongement des laisses et vers la narration linéaire au détriment des laisses courtes et répétitives, des effets de ressac, des effets de refrain, des effets d'écho qui marquaient les plus anciennes. Bref, si je puis dire, l'allongement accompagne la narration conformément au génie de la langue vulgaire. Et du coup, la brièveté est sentie et est en effet un phénomène lyrique. Les chansons sont relativement longues, mais contenues dans des limites strictes, strictes, dans certaines limites. Elles n'ont jamais plus de 5 ou 6 strophes. Ces strophes ont généralement environ 8 vers et en ont rarement plus de 12. Donc, on arrive à un maximum de 120 vers, mettons, pour les chansons les plus longues, mais beaucoup sont beaucoup plus courtes. Et puis, en particulier en Languedoc, les manuscrits ont conservé un très grand nombre de coblas, de strophes isolées, comme nous disons. Donc on a pris la peine de copier une seule strophe, soit que le poète n'ait composé que celle-là, soit qu'on ait voulu retenir que celle-là, parce qu'elle suffisait à produire l'effet ou à donner le plaisir qu'on en produire le sens ou donner le plaisir qu'on attendait d'elle. Et plus tard, dans le Moyen-Âge, au moment même où la narration ne cesse de s'allonger, vous savez que la poésie lyrique, comme nous disons, qui n'est plus à ce moment-là nécessairement une poésie chantée, se limite, c'est infini et c'est d'une difficulté terrible, et d'une complexité terrible, mais ne s'intéresse plus qu'aux formes fixes qui sont, par définition, brèves, qui peuvent être très brèves, comme le rondeau, et dont les plus longues, la ballade ou le chant royal, ne sont pas encore bien longues. Et on est d'ailleurs à ce moment-là prisonnier de cette contrainte. Il arrive qu'on écrive des doubles ballades, quelquefois il y a quelques triples ballades, pour allonger un petit peu, mais on ne peut jamais aller très loin. Et puis, en dehors même de ce point purement extérieur, en somme, la brièveté est en elle-même c'est un phénomène du langage lyrique, et particulièrement chez les troubadours. Nous l'avons assez dit, une expression ramassée au point d'en être énigmatique, volontairement ramassée pour être volontairement énigmatique. Le recours à des maîtres très brefs, le maître inégal de beaucoup de chansons de troubadours, c'est un tout petit peu moins fréquent chez les trouvères, ce que on appellera au temps de La Fontaine, ou ce qu'on appelle à propos de La Fontaine, le vers libéré, ce qu'on appelait même à un moment le vers libre, c'est-à-dire d'avoir dans la même strophe des vers de dix pieds, des décasyllabes, des octosyllabes, et puis des vers de quatre pieds, de trois pieds, de deux pieds. Donc des maîtres très brefs qui obligent à une extrême concision, à avoir des mots très brefs, à contourner la syntaxe et à en éliminer toute la graisse. Les interruptions et la rupture de la strophe introduite par le refrain, d'abord introduit par le refrain, mais le simple fait que d'une poésie strophique, une poésie qui ne se développe pas indéfiniment, mais qui est composée d'unités repliées sur elles-mêmes. La cassure qu'introduit le refrain qui est nécessairement bref, donc qui doit introduire une pointe, un élément nouveau, une variation ou un retour, avec en se cantonnant à quelques mots, à un ou deux vers. Cette façon de hacher le texte encore plus grande lorsque le refrain est un refrain inséré, comme dans les rondeaux sur lesquels nous sommes déjà, enfin d'autres années, tellement arrêtés. Donc, à la fois le style concis, difficile, elliptique, apologique des troubadours, et même en dehors de la poésie difficile des troubadours, la construction strophique et la présence du refrain, tout cela va vers la brièveté. Les trouvères n'ont pas ce style énigmatique des troubadours, mais ils pratiquent beaucoup plus le refrain. Et ils ne le pratiquent pas seulement pour le retour du refrain, puisque, comme vous le savez, le refrain, ce n'est pas ce qui revient, mais ce qui est retranché, réfractum à la strophe, ce qui est à part dans la strophe. Donc justement, un petit bout isolé, et le Moyen-Âge pratique beaucoup les chansons avec des refrains, avec un refrain qui change à la fin de chaque strophe, donc qui introduit chaque fois une nouvelle petite cellule isolée. Le lyrisme se caractérisant par cette brièveté, il est à la fois dans la longueur générale et dans les procédés d'écriture, il est naturel dès lors que l'allongement soit une tendance, mais plus qu'une tendance, un procédé et un effet du poème narratif fondé sur un poème lyrique. Ce poème narratif fondé sur un poème lyrique marque sa différence, se pose en s'opposant, comme on dit, au regard du poème lyrique. L'auteur de ce poème narratif a conscience, sans doute, de pratiquer l'amplificatio, de développer en allongeant le poème lyrique. Et les novas développent par le récit, aussi bien que par l'argumentation, une situation typique impliquée par les chansons des troubadours. jalousie, obstacles en tout genre, obstacles à la rencontre des amants, rigueur de la femme aimée, tentation de céder aux avances d'une maîtresse plus complaisante lorsque la femme aimée est inflexible, etc. Toutes ces situations qui sont derrière de nombreuses chansons de troubadours, mais qui sont comme un donné non développé, à laquelle la chanson fait allusion, au regard de laquelle la chanson est compréhensible, mais qu'elle ne développe pas, et bien tout cela, les novas le développent. Les saluts d'amour le font aussi dans un registre plus personnel et d'un point de vue subjectif, qui est le même que celui des chansons. Là, le point de vue reste le même que dans le poème lyrique, c'est un point de vue subjectif, c'est un poème du jeu, mais on développe la situation pour convaincre la femme aimée. Et du côté des lais français à sujet breton, dont je vais parler à présent, ces lais revendiquent, ou ce que nous appelons les lais, revendiquent la même démarche à partir du récit latent des lais lyriques bretons, une latence dont la nature est difficile à définir, faute de connaître assez précisément les lyriques. Mais du coup, là, l'amplification est encore plus grande, puis c'est comme une amplification à partir de rien. Voici une histoire, dont, une aventure dont les Bretons ont fait un lait, mais on ne connaît pas ce lait. Et, enfin bon, j'anticipe sur ce que je dirais, la référence à ce poème inconnu est uniquement là pour accroître les résonances de l'histoire que l'on raconte, de cette sorte de résumé, d'allusion que l'on ne connaît même pas, mais dont on sait qu'ils existent. Alors, les lais de Marie de France, ou les lais anonymes, procèdent de cette façon avec ce lait breton évanescent, mais appliquent le même procédé, mais cette fois-là sans le dire, aux chansons de troubadour. Et c'est quelque chose dont nous parlerons aussi. C'est-à-dire que Marie de France fait toute une affaire de ces lais bretons qu'elle ne cite pas. Elle se contente de dire qu'il y a un poème chanté breton à partir de cette aventure, et elle ne souffle mot des troubadours, mais elle les connaît, et elle les exploite, et elle les amplifie. Non pas comme le font les novas les citent explicitement et se réfèrent explicitement à eux, mais elle le fait comme en cachette. Mais elle est beaucoup plus proche à cet égard des novas qu'on pourrait le penser. Mais cela, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, et je suis encore désolé pour ce tunnel horrible au début de la séance. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.